Canal Inter, le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'Inter Milan pour la troisième saison. Au micro de cet épisode, Cédric Canale et Giuliano De Pasquale.
Ciao a tutti et bienvenue, bon retour sur Canal Inter pour le numéro 11 de la saison 3. Et comme toujours, je suis accompagné de Giuliano De Pasquale. Salut Giuliano.
Salut Cédric, salut à tous. Un plaisir d'être de retour, même si, voilà, il y a une petite déception sur la semaine écoulée. On va pas se le cacher, mais bon, on va en parler. Avec un invité d'élite aujourd'hui.
Exactement, puisqu'on n'était plus habitué en fait, au match nul ou défaite, on ne savait plus trop ce que ça faisait. Donc voilà, on a retrouvé un petit peu ce goût-là malheureusement. Mais pour retrouver le sourire, eh bien, on va voir les compétences dans les analyses de Walter. Salut Walter.
Salut Cédric, salut Giuliano, merci de l'invitation comme toujours. Toujours un plaisir de vous voir.
Merci à toi, en plus t'habilles en noir et en bleu, tu vois, c'était parfait. T'es raccord avec le thème du podcast, Canal Inter. Giuliano, on va partir. Alors, on ne va pas débriefer les matchs contre l'Atlético et le Napoli, vous les avez tous vus. Ça a déjà été fait, les analyses un petit peu dans tous les sens. On va revenir sur cette période, surtout se poser une question. Et maintenant, parce qu'on est le 18 mars, et il reste 2-6 ans, en gros. Il reste donc 9 matchs à jouer seulement. C'est terminé pour les matchs à milieu de semaine. Et donc, un petit peu se poser la question, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette fin de saison de l'Inter, venir un petit peu aussi bien, sur la question Simone Inzaghi, puisqu'il a beaucoup parlé de lui dans le bien, en partie principalement, mais un petit peu dans le mal aussi ces dernières semaines. Donc ça va être un petit peu les thèmes principaux de cet épisode. Et on commence tout de suite, Giuliano.
Déjà, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette fin de saison? C'est très simple. On a encore, moi je vois, trois enjeux. C'est le record de points. Enfin, déjà, c'est remporter Scudetto. Je vais pas faire ma blague comme dans le dernier épisode. C'est remporter Scudetto, l'assurer. Voilà. Ensuite, le record de points, le capocannonnière pour Lautaro. Donc, est-ce qu'il va réussir à être meilleur buteur de la saison? Et alors, le nombre de clean sheets pour Sommer. Est-ce qu'il va réussir à atteindre les 22 matchs avec le but inviolé? On verra. Pour moi, c'est vraiment les dernières choses qui restent. Et un petit plaisir bonus, c'est le derby milanais hein, qui reste encore à jouer. Pour moi, c'est ça. Voilà, Walter, je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter ou si tu t'en fous même hein, des trucs là. Est-ce que tu t'en fous du capocannonnière? Est-ce que tu t'en fous des clean sheets? Est-ce qu'il n'y a que le Scudetto et rien que le Scudetto qui t'importe?
Moi, je dirais que cette fin de saison, déjà, il faut redescendre sur terre et se relever de cette déception-là de l'Atlético et faire un bain d'humilité par rapport à tout ce qu'on a entendu sur l'Inter cette dernière semaine dans tous les médias européens. Et puis, finir le job, tout simplement. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Ne pas faire preuve d'orgueil, éviter la suffisance, éviter de vouloir faire des calculs, ne pas chercher à vouloir humilier les autres et puis se focus sur nous-mêmes. Tant que le job n'est pas terminé, pour moi, ça sert à rien de s'intéresser. Moi, ça m'intéresse pas les clean sheets, les records de points, etc. Donc, uniquement le Scudetto assuré. Et aussi, quelque chose qui m'intéresse plus en ce moment, c'est se projeter sur la saison prochaine. Je pense qu'on devrait aussi faire l'erreur d'éviter ça. On ne bataille plus sur plusieurs fronts maintenant. Donc, on n'a plus besoin d'insérer certains joueurs. Je pense à des Klaassen ou des joueurs comme Audero. Voilà, ils partent cet été. Et puis, les insertions de Bissek, Aslani, Fratesi, Buchanan, si ça aide à gagner nos matchs, tant mieux. Donc, on le fait. Mais ça ne doit plus être nécessairement ça qui doit nous driver ces prochaines semaines. Arriver le plus tôt possible à l'objectif du Scudetto pour qu'on puisse ensuite offrir à nos joueurs le luxe de pouvoir se relâcher mentalement, d'avoir des petites vacances mentales avant les échéances de cet été, l'Euro, les JO, s'il y en a ceux qui sont touchés, et la pré-saison de l'année prochaine qui va être une saison très longue.
Puisque la saison prochaine terminera par le Mondial des clubs en juillet, donc ce sera une saison en fait infinie qui va durer 11 mois, donc c'est vrai que tu as raison de le préciser. Alors, comme Giuliano en a parlé un petit peu des records possibles, le record de points all time, tout temps en Serie A, c'est 102 points, la Juve de Conte en 2013-2014. L'Inter peut arriver à 103 depuis le match contre le Napoli, donc il faut gagner 9 matchs. Par contre, il y a le record aussi de l'histoire de l'Inter, c'est 97 en 2006-2007, avec Mancini sur le banc. Pour le meilleur buteur, le record de l'histoire de la Serie A, Higuain, 36 buts dès qu'il en mette 13 dans les 9 derniers matchs. Mais bon, pourquoi pas après tout, puisqu'il n'y a plus que ça à jouer, donc ça peut arriver avec des doubles, des triplés, même si on l'a senti un petit peu fatigué ces 3-4 dernières semaines, Lautaro. Les clean sheets, il en est à 17. Yann Sommer, le record, c'est 22. Record partagé par De Sanctis, Buffon et Provedel, notamment sur les dernières années. Non, le record, c'est 21, donc il arrive à 22, pour être précis. Puis donc le derby, effectivement, le 21 avril, pour avoir un sixième succès de suite contre l'AC Milan, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'Inter. Giuliano, si tu avais un truc à choisir là-dedans, voilà, ce serait lequel?
Bah, au-delà du Scudetto, je pense que ce serait le record de points. Enfin, non, le derby, le derby milanais compris dedans?
Oui, dans les quatre.
Ah oui, ok, bah, je préfère évidemment le derby milanais, enchaîner un sixième succès contre les cousins, et le reste, on s'en fout, quoi. Le reste, bon, c'est vraiment optionnel, c'est accessoire, c'est pas très important, quoi. Mais un derby milanais encore gagné, ça n'a pas de prix.
Tu le disais, Walter, tu as un petit peu le discours qu'avait dit Marco hier soir sur le côté il faut terminer le plus vite possible le travail, on s'en fout un petit peu des points et compagnie, mais c'est voilà le champion. Et parce que bon, après tout, c'est pas fait. C'est vrai que là, on parle de record, on parle de ces choses-là, mais bon, après tout, voilà, il reste encore 27 points à prendre et tu en as 14 d'avance, donc c'est pas encore fait. Là, c'est Milan pour aussi faire une fin de saison tonitruante. Ça peut arriver, bien sûr. La Juve. On va y croire un petit peu moins vu ce qui se passe depuis 8 matchs de leur côté. Mais bon, comment tu vois déjà, comment tu analyses ces deux derniers matchs? Tu parles de baigne d'humilité, tu parles de ces choses-là. Est-ce que pour toi, c'est ce qui a un petit peu manqué? Par exemple, contre l'Atlético, tu penses que ça a joué ça, le manque d'humilité, peut-être un petit peu se voir un petit peu trop beau de la part des joueurs ou pas?
Moi, je suis encore énormément déçu. Hein. Là, on est en train de parler de Scudetto et tout, mais moi, j'ai encore beaucoup la tête à cette élimination. Je suis encore sonné parce qu'il nous a ramenés sur Terre. Les planètes semblaient s'être alignées. On avait gagné à la maison. On avait des blessés qui revenaient au bon moment. Tous, on avait l'équipe type qui était là de nouveau. Le championnat a été tué malgré un calendrier ultra relevé, donc le pire du calendrier est aussi passé. Et de l'autre côté, l'Atlético est arrivé dans une spirale négative, avec des éliminations en coupe, avec ouais, des résultats décevants.
Alors, ça va peut-être un petit peu trop beau après les 13 victoires de suite, toutes compétitions confondues.
Oui, je pense que c'est clairement un des points qui a fait que le manque d'humilité, c'est clairement un des points qui nous a fait, je pense, éliminer. Je pense que cette dynamique incroyable qu'on a eue ces derniers mois a fait que pour personne, c'était devenu inimaginable en fait de se faire sortir. Et je crois que cette dynamique qui s'est créée en Europe entière, où on nous admirait, où on nous plaçait dans le top 3 européen, dans les favoris pour gagner la Ligue des Champions, derrière City et Real, mais tout proche, hein, d'une manière ou d'une autre, c'est intégré en fait dans l'équipe et dans la tête des joueurs et dans la tête d'Inzaghi. La preuve, c'est que on était dans la fin du match, on a remarqué que ce soit dans les changements d'Inzaghi qui ne faisaient pas sens, quoi. Ça se voyait que c'était pas préparé, quoi. D'habitude, tous nos matchs, on peut déjà les prévenir, on peut déjà savoir à l'avance les changements qu'on va faire. Hein. À la minute près, quel joueur va sortir, quel joueur va rentrer. Et là, Inzaghi a fait des changements où la moitié ont été incompréhensibles, où il a même changé d'avis en cours de route, où tu vois Buchanan qui allait rentrer et qui finalement retourne sur le banc et finalement ne rentre même pas. Enfin, tu vois que c'était confus dans la tête d'Inzaghi, quoi. Et ensuite, l'apogée, c'était ben, cette séance de tir au but où tu vois que on n'a pas vraiment pris le temps de faire rentrer nos tirs. On n'a pas pensé à faire rentrer les tireurs. On a fait rentrer que les défenseurs, quasiment tout le à part Sanchez et Fratesi. Et du coup, et aussi après toute la séance de tir au but, on a vu qu'elle n'était pas préparée. Quand tu vois la préparation d'Inzaghi dans certains compartiments du jeu, comme le penalty par exemple, où tu as dit Marco qui avait la consigne de rentrer dans la surface si jamais tu loupes le péno pour la remettre dedans. Bah, tu vois comme c'est méticuleusement organisé. Là, la séance de tir au but, bah, ça se voyait qu'on n'a pas du tout étudié Oblak, ça se voyait qu'on avait aucune idée de l'ordre des tireurs, de qui allait tirer. C'était, tu vois même dans les frappes des joueurs, en fait, à part Hakan, les autres, tu vois que tout le monde tire un peu de manière improvisée et pas de manière travaillée, quoi. Tout ça montre que, eh ben, si tu t'es pas préparé à aller aux prolongations, si tu t'es pas préparé à un scénario comme ça où tu vas devoir réagir en fin de match, eh ben, ça veut dire que tu n'as pas été humble Tu n'as pas pris en considération la possible élimination, la possible prolongation, et du coup, oui, on retombe de
Alors,
très haut avec ça.
moi je suis d'accord qu'on tombe de haut, on revient même les pieds sur terre, mais je pense que l'analyse qu'on faisait avant le match, elle est toujours valable maintenant concernant l'Inter, c'est que on reste toujours avec un coach, comme tu l'as dit, qui est un des meilleurs d'Europe, avec un jeu aussi qui est un des meilleurs. L'Atlético nous a eu sur un match. Et l'Inter a fauté à l'aller en mettant qu'un seul but, alors que on aurait pu facilement gagner minimum 2-0. Au match retour, tu mets le premier but en plus là-bas. Tu peux pas faire une erreur après, quitte ou t'encaisses l'égalisation. Tu rates encore une fois à deux ou trois reprises des occasions qui peuvent te permettre de creuser l'écart et vraiment donner le coup de grâce à l'Atlético, tu ne le fais pas. Pour moi, ce sont vraiment des faits de jeu qui font que l'Inter a été éliminé ici, mais ça ne remet vraiment pas en doute toutes les qualités. Et c'est juste dommage que ça tombe cette saison. En plus, quand on voit sur qui l'Atlético tombe, avec tout le respect que j'ai pour Dortmund et pour d'autres équipes de ce côté-là, ça aurait pu... Moi, je voyais une terre aller loin, et c'est vrai que ça me hante encore depuis une semaine. Même moi, je voulais juste dire ça, que l'analyse qui a été faite avant le match, pour moi, elle change pas. On a toujours une équipe compétitive avec un jeu séduisant. On a toujours une belle Inter, et faudra, ça fait grandir, quoi. Ce genre de match, c'est censé faire grandir, et j'espère que l'année prochaine, eh bien, les leçons seront tirées. Mais bon, déjà, j'espère qu'on aura l'effectif nécessaire pour continuer à asseoir une domination en Italie. Ce serait déjà ça.
Vous pensez pas qu'on a cassé une illusion qui s'était quand même créée avant ce match, qu'on était top 3 européen?
Casser une illusion? Bah vas-y, Cédric.
Pour
Moi, je n'ai
moi,
pas forcément l'impression.
moi, c'est pas ce qui me gêne, mais c'est vrai qu'on est passé de être 4, 5e force italienne en août à être 3, 4e force européenne en février. Donc c'est juste ça. Il y a eu peut-être une illusion négative en début de saison, peut-être qu'on par rapport au mercato, on le voyait trop noir, parce que par exemple, on voit que l'apport de Pavard, même s'il est fautif contre l'Atlético, même si depuis quelques matchs, il est peut-être un petit peu moins rayonnant, mais bon, entre lui et Bissek, le poste d'axial droit, il y a une vraie progression par rapport à ce que proposait Skriniar les saisons passées, par exemple, dans le jeu. Donc, il y a eu des bonnes choses. Après, 3e, 4e force européenne, je ne sais pas, mais quand en face, tu as Memphis Depay qui entre et qui te change le match, toi, tu n'as pas cet attaquant-là qui te change les matchs à ce niveau de compétition sur le banc. Alexis, on l'a vu, il a plutôt fait des bonnes choses récemment, mais il a plus ça. Maintenant, il est âgé, et il ne peut plus supporter l'intensité des grands matchs sur une longue durée, on le sait. Thuram fait de très très bonnes choses, mais on a vu que devant le but, il lui manque encore le côté tueur, parce qu'il est né en footballeur comme ailier, il n'a pas ce sens du but. Donc je pense qu'on en a un petit peu trop fait, effectivement, sur le côté top 3, top 4 européen, parce que le jeu est très agréable, parce que pour les personnes qui ne regardaient pas l'Inter de près, lorsqu'ils s'y sont intéressés sur certains matchs, ils se sont dit waouh, mais ça se joue super bien. Les buts, quand on voit Bastoni qui trouve Bissek, ou encore hier soir, Bastoni pour Darmian, et toutes ces choses-là, t'as peu d'entraîneurs qui proposent des choses comme ça, en fait, en Europe. Donc c'est pour ça, je pense que la qualité de jeu a créé une illusion et qui a mis l'Inter un petit peu au-delà de ce qu'elle, on va dire, ce qu'elle vaut réellement.
Eccolo Michi che può allargare per Bastoni che va a guadagnare il fondo, il cross, attenzione, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol, il polipo e Darmian l'ha messa, che bella azione e l'Inter va in vantaggio al minuto 43 con il secondo gol dopo quello all'Atalanta in campionato di Darmian.
Mais voilà, qui en a trophée, ce sont un peu les médias extérieurs. Moi, je ne trouve pas dans la communauté interiste, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télé, qu'il y ait eu vraiment un emballement. Oui, on se disait, waouh, c'est vraiment la plus belle équipe qu'on ait jamais vue de l'Inter, parce qu'on n'est pas habitué à avoir une qualité de jeu comme ça dans ce club. Mais ça n'a jamais été question de se projeter parmi le top 3 européen dans notre communauté. Donc, je pense que nous, interistes, on reste quand même assez les pieds sur terre par rapport à ça, mais c'est clair que ça met un coup au moral de voir l'équipe sortir maintenant. vu les possibilités qu'on avait et vu ce qu'on a vu toute la saison aussi, hein. Toute la saison, on avait un beau jeu. Ce qu'on a vu aussi par rapport à la saison dernière, comment les matchs étaient préparés. C'est surtout ça qui fait mal. Mais moi, je trouve vraiment que la qualité reste la même.
Alors, Walter, une question, hein, puisque ce matin sur X, anciennement Twitter, on a demandé à nos tweetos, aux personnes qui nous suivent, de poser des questions. Il y en a plusieurs qui sont arrivées, mais justement, Giuliano l'a évoqué il y a une petite minute. Est-ce la plus belle Inter que vous avez vue jusqu'à maintenant en termes de qualité de jeu? C'est Solo Lamaglia qui nous pose cette question. Donc, toi, est-ce qu'en termes de qualité de jeu, c'est la plus belle Inter? Bien sûr, on ne peut pas comparer par rapport à Herrera, même Trapattoni pour nous, c'est un peu compliqué par exemple, mais voilà de ce qu'on se souvient. Est-ce que pour toi c'est la plus belle?
Oui, pas la plus forte, mais de loin la plus belle. J'ai jamais vu ça, que ce soit à l'époque. Moi, j'ai commencé à suivre l'Inter à l'époque de Ronaldo Vieri, de l'époque Cooper, et puis ensuite la période post-Calciopoli, même qu'on avait une équipe de malades avec Mancini. Je me souviens que même quand on était aussi dans un mode rouleau compresseur du championnat, mais je me souviens que c'était vraiment surtout sur les qualités individuelles des joueurs qu'on avait, sur les Ibrahimovic et compagnie. Et même jusqu'au triplé, quoi, l'Inter du triplette, on était ultra fort, mais c'était un mélange de collectif et de force des joueurs, mais au niveau du jeu, des actions construites, non, ça, j'ai jamais vu ça.
Giuliano, tu es d'accord dans ce. C'est vrai qu'il y avait un petit jeu notamment qui était fait en Italie ces dernières semaines. C'était tu prends l'équipe du triplette, tu prends l'équipe actuelle, et qui tu peux mettre dans l'équipe actuelle, l'équipe du triplette. Et c'est vrai qu'en fait, si tu réfléchis, aucun n'est titulaire actuellement. Mais par contre, en qualité de jeu, elle est meilleure. Donc c'est ça qui aussi permet, pour revenir un petit peu à ce côté illusion peut-être qui a été créé, c'est vrai que c'est grâce en fait au travail, on y reviendra juste après, au travail d'Inzaghi, du staff, des joueurs, de la mentalité des joueurs qui ont su créer cette illusion parce qu'il y a vraiment un très très beau jeu collectif.
Ouais, ça, on en a parlé lors du dernier épisode avec Kevin. On disait que, bah oui, c'est vraiment cet aspect tactique, en fait, qui est impressionnant. Parce qu'on abordait aussi l'équipe de 2010 en disant que, ben, en fait, c'était des contre-attaques qu'on faisait avec Mourinho. Mais ça, je donne raison à tout le monde. Tous ceux qui disent qu'il n'y a aucun joueur du 11 titulaire de 2010 qui serait remplacé par un des 11 titulaires actuels. Ça, je vois pas qui mettre. On peut chipoter peut-être sur l'un ou l'autre, mais sinon, non, c'est la qualité individuelle. Et je pense que c'est aussi ça qui nous a fait défaut, hein, contre l'Atlético. C'est la qualité individuelle, elle n'était pas là. On a une tactique, on a un jeu qui doit bien se dérouler comme ça, comme ça, comme ça. Et quand on est malmené, quand l'Atlético nous accule, ben, on perd tous les moyens et on doit se baser sur des qualités individuelles, ben, qu'on n'a pas vraiment dans l'équipe actuelle.
Moi, c'est pas provocation, parce que j'adore Marcus Thuram, mais ce qu'il fait, c'est au-delà de tout ce qu'on pouvait attendre. Mais tu changes les deux attaquants français du huitième de finale, tu mets Griezmann dans l'Inter, l'Inter est en quart de finale, parce qu'il fait. Alors qu'il revient de blessure, le match qu'il fait, c'est incroyable.
Ouais, c'était hyper impressionnant. Moi, je ne m'attendais déjà pas qu'il joue plus de 60 minutes. Et il allait juste, non, pas
Il avait
jusqu'au
joué 5
bout,
minutes, il a joué
100
5
minutes,
minutes, ouais,
voilà.
il a joué 5 minutes,
Incroyable.
une intensité, le pressing, les courses qu'il a fait, alors qu'il avait passé 3 semaines sans jouer, c'est incroyable. Puis il met un but, enfin bon, voilà, donc tu as raison sur la qualité individuelle, c'est vrai, c'est ce qui peut manquer par moment, et c'est ce qui manque dans certains matchs, parfois pour un petit peu faire la différence lorsque l'équipe patauge un peu ou un petit peu en difficulté. On l'a même vu un petit peu ce dimanche soir, hein, contre le Napoli. Je ne sais pas ce que tu en penses, Walter, mais quand l'équipe, on l'a vu aussi contre Bologne, on l'a vu. Ça, on s'en est bien sorti, mais même contre le Genoa, où c'est passé ric-rac, quand l'équipe est un petit peu plus en difficulté, c'est vrai que parfois il manque ce petit brin de. Même si Lautaro est un très très bon joueur, il y a d'énormes qualités, il manque parfois un petit peu ce petit brin de talent qui va faire la différence.
Oui, ben c'est, je sais pas si vous essayez de vous rappeler les buts qu'on a mis cette saison, combien il y a de buts qu'on a mis où c'est sur un exploit individuel? Franchement, moi, il y en a vraiment très très peu qui me viennent en tête, hein. Alors certes,
Thuram lors du derby à la rigueur?
voilà, ouais, par exemple.
Mais très peu. Ouais.
Moi, très peu. Moi, par exemple, il y a le but de Lautaro contre Liverpool qui me revient en tête, là, cette frappe-là. Mais si, genre des buts comme ça, tu sais, qui sortent un peu de nulle part, comme ça, par le talent pur d'un joueur. Très très peu, quoi. Alors que quand tu regardes l'Inter du triplette, on en a plein de ces débuts comme ça.
C'est vrai que maintenant tu regardes les buts, c'est sur un schéma et c'est bon, c'est pas plus mal, hein, c'est pas une critique. Mais la plupart des buts, ouais, c'est ça, c'est un centre, quelqu'un qui reprend, ou alors c'est un 1-2, une incursion dans le rectangle et on finit. Après, Lautaro en a mis quelques-uns de l'extérieur hein, cette saison où il a lâché des belles frappes.
C'est vrai. Bah,
Si
Lautaro, je pense
le.
que c'est un des seuls qui est capable.
Oui, c'est assez nouveau d'ailleurs de sa part. Ça fait oui, un an ou deux où maintenant il commence vraiment à passer ce cap. Mais du coup, question, Simone Inzaghi, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Pas mal de médias étrangers, enfin quand je dis étrangers, en dehors de l'Italie, on dit beaucoup de bien de lui. En France, il y avait cette question qui est revenue pas mal. Il y a eu des débats, des émissions. Je salue Guillaume Maria Pacini qui a fait un article aussi sur l'Inter et sur lui juste avant le huitième retour sur Eurosport. Comme quoi, est-ce que c'était... C'est parce que c'est pas un match qui a forcément tout changé, mais le meilleur technicien d'Europe, il y a pas mal de questions comme ça. Alors qu'il y a un an, il faut se rappeler, juste avant le huitième de finale retour contre Porto, il est à deux doigts de se faire virer. Si sûrement il y a l'argent à l'Inter pour le virer, sûrement il s'en va. Il prenait beaucoup d'attaques d'ailleurs de l'intérieur du club. Ça sortait plus de façon interne qu'externe contre lui. Donc là aussi, là-dessus, Walter, est-ce que pour toi, on en a trop fait, un petit peu comme pour l'équipe ou pas, autour d'Inzaghi?
C'est indéniable que Inzaghi a fait un step immense hein, cette année dans sa progression, notamment pour moi dans sa communication et dans sa gestion de l'effectif, gestion des matchs. Niveau tactique, je pense qu'on était déjà très fort il y a 2 ans. Moi, je suis d'ailleurs pour revenir au match de Liverpool qui l'obsède lui-même, Inzaghi. Moi, je suis certain que si on avait un autre gardien qu'Andrejovic, on n'aurait jamais perdu 2-0 à l'aller et ça aurait été un tout autre match au retour. Mais cette année, en fait, effectivement, Inzaghi, il a, un, je pense, gagné en confiance en lui, dû à cette finale de l'année passée. Et deux, le club lui a mis un effectif de plus, beaucoup plus taillé pour lui, de plus en plus taillé pour lui, avec des joueurs fonctionnels à son jeu. Je pense à Carlos Augusto, je pense à Thuram, je pense à Pavard, et aussi des joueurs pas seulement fonctionnel, mais aussi des joueurs caractériels à sa personnalité, à Inzaghi. Par exemple, même si c'est unpopular, en enlevant Brozovic de l'effectif, je pense que Brozovic et Inzaghi, c'était évident l'année passée qu'ils n'ont jamais été les meilleurs amis.
Je peux élargir là-dessus. Je pense que le bloc d'Europe de l'Est, le départ du bloc d'Europe de l'Est a fait beaucoup de bien au vestiaire. Je pense que Handanovic, Brozovic, qui sont des très bons gars qui ont beaucoup donné à l'Inter, mais je pense que ça a libéré certaines personnes dans le vestiaire. On a vu certains joueurs devenir plus importants. Et donc je pense qu'effectivement, que ce soit sur le terrain et en dehors, ça a joué dans la transformation sur cette saison.
Ouais, et tu vois, quand ton effectif te correspond mieux, je pense que c'est normal que tu arrives à le rendre aussi meilleur, quoi. Et puis ce taf, du coup, fantastique qu'a fait Inzaghi cette saison, combiné avec une série qui a été quand même incroyable, là, 2024, ses victoires non-stop, a créé une sorte de, ben, une illusion où on est un peu tous tombés dedans, ben, comme on a dit tout à l'heure, y compris, à mon avis, lui-même, Inzaghi, et même les joueurs, quoi, à force d'entendre dans tous les médias de toute l'Europe que l'Inter est dans les favoris de la Ligue des Champions, et ben, c'est obligé que ça trotte un petit peu, ça rentre dans la tête, quoi. Et au final, oui, je pense qu'on en a fait trop, un peu, avec lui. Peut-être qu'on a été trop vite dans nos jugements et avec l'Inter en global. Hein, on a été considéré comme un des favoris au titre, alors que quand tu regardes notre effectif intrinsèquement, si tu comprends les joueurs, on est, je dirais pas, on est top 10, et je dirais dans la deuxième partie du top 10 européen, au mieux. On n'est pas dans la catégorie des Bayern, City, Real, Liverpool, même Barça a meilleur effectif que nôtre.
Oui, c'est un exploit du coach, hein, j'ai l'impression. Même s'il y a de la
Oui.
qualité,
Oui.
il y a vraiment un
Oui.
environnement propice aussi à la victoire, mais la qualité du coach est pour moi ce qui fait le plus là-dedans.
Oui, et du coup, je pense, à cause de tout ça, on a sous-estimé cette échéance de l'Atlético. Et contre une équipe qui a comme principale force la détermination combinée avec le talent individuel qu'ils ont, avec un effectif qui est ben justement pas inférieur au nôtre, hein, qui est assez, disons, je dirais qu'il est assez homogène avec ceux de l'Inter, et ben voilà, on est tombé et c'est grand mérite à l'Atlético.
Et à son public, faut quand même signaler le public aussi qui, je pense, a eu un. Parce que franchement, bon, j'étais au stade, mais des ambiances comme ça, j'en ai rarement vécu en Europe et c'était assez incandescent. Et puis la séance de tir au but, c'était assez incroyable. C'était vraiment. Voilà. En plus, c'est un stade à l'anglaise, donc ça résonnait vraiment. Donc voilà, je pense que l'Atlético, sur le terrain et en dehors, a fait tout ce qu'il fallait pour passer, puis il le mérite. Hein. Si sur l'aller-retour, on peut en débattre, parce que sur l'aller, il n'y a pas photo. Mais voilà, il n'y a pas de.
Non, mais ça totalement, il le mérite. Hein. Quand tu vois
Ouais.
la mentalité affichée, la hargne, oui, ils sont allés la chercher, hein, cette qualif. Il n'y a rien à dire.
Le poteau de Depay, Riquelme à la fin qui tire au-dessus, enfin ça peut aussi se finir plus tôt, donc bon, au final.
Évidemment, ouais.
Une autre question, je te la pose à toi, Giuliano. Alors, il a un serpent comme pseudo, mais c'est Okogbe. Comment expliquer le très faible temps de jeu de Buchanan depuis son arrivée? À chaque entrée, on sent qu'il a du feu dans les jambes, c'est frustrant. Alors moi, je mettrais un petit peu à part hier, où j'ai trouvé son feu un peu éteint quand même, où il a fait un peu de confusion quand même. Mais voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi, des débuts de Buchanan et pourquoi il joue pas plus?
Ben moi, je pense que c'est simplement une question physique parce que il vient de la Jupiler Pro League, qui est quand même quelques niveaux en dessous de la Serie A. Et en plus, il jouait pas tant que ça dernièrement à Bruges. Donc, voilà, le temps qu'il se remette en jambes, le temps qu'il capte aussi ce que Inzaghi lui demande au niveau tactique. Pour moi, il y a rien d'anormal là-dedans. C'est juste que j'aurais aimé le voir dans des situations. On avait le match en main assez facilement, donc on a mis quand même quelques gros scores hein, ces dernières semaines, et on l'a pas vu assez pour moi lors de ces moments où il aurait pu justement prendre ses marques, tu vois, être lancé, parce que voilà, le score était là, c'était plié. Donc c'est juste ça que je reproche et que je comprends pas trop. Sinon, pour moi, il y a rien d'anormal. En plus, on voit qu'ici, doucement, il commence à rentrer de plus en plus. Donc, patience, on va le voir. Et j'ai l'impression que c'est intéressant ce qu'il montre, mais évidemment, on n'a rien vu du tout là.
On n'est pas étonné du peu temps de jeu de Buchanan. On connaît Inzaghi, c'est de
Ouais,
loin d'être le
aussi, hein.
meilleur. C'est pas le
Ben,
meilleur entraîneur
Bissek.
pour.
Ben,
Ouais,
Bissek, il
pour.
a mis 2-3 mois pour lancer, il lui donnait 15 minutes, et puis en décembre, il a lancé quand il a senti prêt, et parce qu'il y a eu des blessures. Mais parce qu'il a senti
Non,
prêt
mais
aussi.
ouais.
Et depuis, il est très très bon
Bissek.
d'ailleurs.
Ouais, ben Bissek, est-ce que vous croyez vraiment que Bissek, il aurait eu la saison qu'il a eue si Pavard n'a pas eu sa blessure?
Ah non, non, non.
Ah, ouais, c'est sûr, hein. Regarde
Et
Fratesi. Fratesi,
regardez, non mais
il
tout le
fait
monde.
une très bonne saison et
Exactement.
bah, il n'a pas sa place, hein.
Voilà, Fratesi, le temps de jeu qu'il a, infime par rapport à les stats qu'il a, c'est déjà révélateur, quoi. Et puis aussi, Buchanan, il fait les frais que les Pistons, on en a 5 avec Darmian.
Et
Et du
ici,
coup,
Cuadrado revient.
donc c'est le seul poste où c'est même pas deux par poste, t'as encore un joker avec Darmian qui a de toute façon toujours. Ouais, les faveurs d'Inzaghi pour passer devant quand il en manque un à gauche ou à droite, quoi. Donc, ouais.
Alors, autre question, Walter, je te la pose rapidement. C'est Monsieur Mehdi, tu as déjà répondu sur X avec lui. C'est pourquoi on est aussi méchant avec la Roma.
Je lui ai répondu à Monsieur Mehdi déjà.
Un numéro
Ouais.
90 qui nous a quasiment offert la victoire il y a un mois, c'est ça, en ratant les occasions face à Sommer.
C'est ça, c'est ça. On n'a pas le droit de lui offrir une once de joie à cet homme-là, donc il fallait les abattre à la Rome. Désolé, monsieur Mehdi.
Tu veux répondre à Quentin ou pas? Puisqu'on est parti sur les questions un peu provoques. Ou pas, ou on se limite à saluer notre ami Quentin.
On le salue très fort, notre ami Quentin.
Voilà. Et on l'attend très prochainement dans ce podcast, lui qui est de retour à San Siro depuis quelques semaines, donc pour voir plusieurs matchs, donc on l'invitera prochainement.
Et s'il veut un élément de réponse, je l'invite à aller revoir le highlight du dernier derby milanais.
Voilà, allez sur notre compte Twitter si vous voulez la question. Voilà, c'est l'interactivité façon Canal Inter. Il y avait une autre question et je vais m'en charger de répondre, qui est liée en fait à la Courbe à Nord. Nero Blue 93, peut-on faire un petit point sur la sanction reçue contre la Courbe à Nord? Nous n'avons que peu d'éléments sur cette affaire et cette sanction aussi lourde. Alors effectivement, après le match Inter-Juve, donc début février, des supporters de l'Inter, apparemment liés à la Courbe à Nord, ont attaqué des bus de supporters de la Juve avec des jets et compagnie. Alors bon, fort heureusement, il n'y a pas eu de trop de voilà, il n'y a pas eu de casse, on va dire seulement matériel, il n'y a pas eu de blessés, heureusement. La préfecture de police, logiquement, s'est chargée de l'affaire puisque ça s'est passé en dehors du stade et a sanctionné lourdement la Courbe à Nord en interdisant de tifo, donc interdit de faire toutes les belles chorégraphies que l'on a l'habitude de voir. Donc par exemple, alors Je pense même que ça vaut aussi à l'extérieur. Donc, je pense que ce sera même le cas lors du 21 avril pour le deuxième anneau vert lors du match contre Milan. Mais en tout cas, aucune chorégraphie contre l'Atlético, par exemple, et pour la fin de saison. Interdiction des tambours, interdiction des drapeaux, interdiction des micros. Donc, voilà, aucune sonorisation. Et ce, jusqu'à la fin de la saison. Donc, c'est une sanction lourde. C'est une sanction de mémoire. Alors, je ne sais pas si elle est inédite, mais en tout cas, qui est très, très rare dans le football italien. Et c'est vrai que la Curva a fait une grève pendant 30-35 minutes. C'était lors du précédent match à domicile. Donc, elle a décidé de rentrer seulement après une demi-heure pour un petit peu protester contre cela. C'était contre le Genoa. Et lorsqu'elle est rentrée, d'ailleurs, 2 minutes après, l'Inter a marqué. Mais voilà, donc pour faire un petit peu le point sur cette sanction-là, c'est une sanction effectivement assez lourde. Et a priori, le club essaie de servir d'intermédiaire entre la préfecture de police et la Curva Nord pour essayer de trouver une solution pour que la sanction puisse être levée avant la fin de la saison. Parce que c'est vrai que c'est assez. Même s'il y a toujours beaucoup de bruit, hein, ça, il n'y a pas de problème, mais c'est un petit peu triste. Donc voilà pour la Curva. Autre question, je vais te la poser, Giuliano, c'est pareil, c'est une question un petit peu provoque d'un de mes amis. Giuliano, est-ce que tu tires mieux des pénaltys que Lautaro? C'est Antoine Aiello qui te la pose.
Est-ce que je tire mieux les pénaltys que Lautaro? Certainement pas. Je suis une vraie clinche. Il a pu le voir d'ailleurs au match Diaspora. On a joué ensemble et je pense qu'il a très bien pu constater que j'étais très très nul au football. Je lui réponds premier degré. Pas
Non, mais
envie d'aller plus
on
loin.
organisera un podcast entre vous deux d'ailleurs sur un sujet à définir. Je suis sûr que vous entendrez bien après.
D'accord.
Voilà. Et puis on salue aussi la Burrita qui nous a posé une petite question aussi par rapport à ces mèmes. C'est vrai qu'il nous régale de mèmes, la Burrita sur X, sur Twitter, avec son chien, avec la Marotalix. C'est assez drôle et donc on en profite pour le saluer. Je pense qu'on a fait le tour, sinon, messieurs, non?
Oui, c'est ça. Bon, on n'a pas parlé de Cherbi, hein, Cherbi qui a sorti quelques mots, ou qui aurait sorti quelques mots apparemment racistes envers Juan Jesus dans le match contre Naples. En fait, on sait rien, quoi. C'est juste pour le mentionner parce que c'est un truc important, mais Juan Jesus aurait dit à l'arbitre, bon, c'est des interprétations labiales, hein, mais il aurait dit que Cherbi lui aurait dit le mot haine, et Acerbi, donc là, a été, je ne sais pas s'il a été exclu ou s'il c'est lui-même qui a
Non,
décidé
il s'est
de se
exprimé. Il
retirer.
s'est exprimé auprès du staff et de ses coéquipiers à la fin de cette explication. En fait, le choix a été fait a priori par la sélection de ne pas le sélectionner, donc de prendre Mancini à sa place de la Roma, sans
Voilà, c'est ça.
commentaire, sur le remplaçant et son comportement parfois. Mais voilà, et donc du coup, il va se défendre en quelque sorte, et son agent, Pastorello, agent qu'on connaît bien à l'Inter, puisque c'est notamment lui qui avait fait venir Lukaku, et d'autres joueurs, s'est expliqué sur Radio Sportiva à la mi-journée aujourd'hui en disant que Acerbi lui a certifié qu'il n'avait pas dit ce mot-là. Il y a eu une petite incompréhension entre Juan Jesus et lui. Il y a des mots qui ont été un petit peu trop forts de la part de Acerbi, mais qui n'y a pas eu de mots racistes. Ce sera parole contre parole, et en tout cas, parce que tu en penses, Walter, mais oui, il faut que cette affaire soit réglée, puisque le racisme n'a pas sa place ni à l'Inter, surtout quand on connaît l'histoire de l'Inter, la façon dont elle a été fondée, le slogan Fratelli del Mondo, et dans le foot en général. Donc voilà, s'il y a eu un dérapage, que ce soit de façon, on va dire, inconsciente ou consciente de la part d'Acerbi, de toute façon, il faut que les sanctions soient prises, si c'est le cas, non?
Oui, ben là, une des choses que j'ai fait ce matin, c'était d'aller voir jusqu'à quand court son contrat. Est-ce que c'était fin 2024 ou 2025? Mais bon,
25.
malheureusement, ouais, 25. Ouais. Et bon, ben, on va pas, ouais, je vais pas m'avancer tant qu'on n'a pas tous les faits de cette histoire. Mais je pense qu'il faut que, en tant qu'Inter, qu'on soit exemplaire et puis tolérance zéro avec ça, quoi. Donc, faudrait aussi voir le contenu des contrats des joueurs. Est-ce qu'il y a des clauses, tu sais, pour des faits graves qui nuisent à la réputation du club? Ou il peut y avoir deux genres de clauses qu'on peut utiliser dans des cas extrêmes. Et si c'est avéré ce qu'il a fait, ben, ça pourrait rentrer en ligne de compte. Ouais.
L'Inter a communiqué aussi, donc concernant Acerbi, il y aura une réunion donc ici assez rapidement pour avoir sa version et voir quelle serait la suite. Mais donc il y a bien une enquête de la Fédération italienne pour déterminer ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit. Voilà.
Et l'Inter, logiquement, se prononcera à ce moment-là, parce que c'est vrai que voilà, c'est l'un des salariés, là, tout simplement. On rentre dans le côté aussi, comme le disait Walter, assez juridique. Donc, a fait un communiqué pour rien dire, mais pour même signifier effectivement que voilà, qu'ils étaient sur l'affaire, et puis on verra. Mais ça peut surprendre par rapport à l'homme, parce que ce qu'il a dégagé jusqu'ici, par rapport à son histoire personnelle, son histoire de vie, c'est vrai que c'est pas forcément la première personne sur laquelle on pouvait penser à un tel dérapage, mais bon. On verra si ça a été le cas ou si ça a été juste un sfoto, comme on dit en italien, un petit peu trop fort de sa part, mais qui n'était pas forcément raciste. On verra.
Bah parfait. Merci beaucoup, Walter, pour ton intervention élite, comme d'hab.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Cédric, aussi, pour ce podcast. Eh bien, on se retrouve après la pause, hein. C'est la pause internationale ici. Donc, pas d'Inzaghi Ball, pas de Limone Ball. Un peu
Elle arrive au bon
triste.
moment, cette trêve, je trouve.
Mais, oui, un peu
Ouais.
triste parce que pas de Limone Ball, mais content parce que les joueurs vont pouvoir se
Alors,
reposer, surtout Mkhitaryan.
c'est ce que j'allais dire, parce que beaucoup vont partir, notamment les Italiens qui partent aux États-Unis faire une tournée complètement incompréhensible, parce qu'envoyer des joueurs aux États-Unis changer de continent au mois de mars. Mais Mkhitaryan qui va avoir 2 semaines de repos, je pense que pour lui, ça arrive à point nommé, parce que encore ce dimanche soir, il a eu quelques mauvaises passes, on sent qu'il est fatigué.
Ouais, j'ai vu d'ailleurs passer sur X, je sais plus, je citerai au prochain numéro le compte, il y a un compte humoristique sur l'Inter qui dit que on voit Inzaghi dire à Mkhitaryan pour te tenir en forme, je t'ai organisé 2 matchs amicaux pendant la pause et tu le vois lui avec une gueule jusque par terre, il n'en peut plus. Enfin...
Non, mais voilà, en tout cas, encore une fois, on ne peut que saluer voilà, la saison de Mkhitaryan, même s'il était l'homme des
Ouais,
plus
c'est
en
fou.
difficulté à Madrid, c'est quand même assez fou ce qu'il apporte à l'Inter. Giuliano, Walter, c'est un plaisir d'être avec vous en ce 18 mars. Nous, on se retrouve juste après Pâques pour le championnat. Ce sera un Inter Empoli. Ça ne fait pas forcément rêver, mais très très important pour prendre les 3 points et faire un pas de plus vers le Scudetto.
Eh ben parfait, merci beaucoup à tous encore une fois et on se voit à la prochaine. Ciao ciao!
C'était Canal Inter avec Giuliano De Pasquale et Cédric Canale. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Et pour toutes les coulisses depuis Milan, suivez-les sur Twitter et Instagram. Alla prossima, fratelli nell'Azzurri.